Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Le samedi 2 mars, l'association Carte Blanche avait invité Macha Merrill au Carré d'Art pour partager avec elle le film « Quand passent les cigognes » de Mikhaïl Kalatazov, un film de 1957. Et nous avons eu la grande chance donc, d'écouter Macha Merrill nous présenter le film.
Merci de me rejoindre, Macha Merrill. Merci d'être venu à Nîmes. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation.
J'ai des grands souvenirs à Nîmes, parce que c'est ici que nous avons tourné avec Agnès Varda, Saint-Antoine Nîmois. Et j'ai des grands souvenirs de Jean Bousquet, qui nous avait accueillis et qui nous hébergeait et qui était un homme ambitieux, qui aimait beaucoup le cinéma et il avait beaucoup soutenu Agnès. Et donc, on tournait beaucoup dans toute cette région. J'y suis restée assez longtemps. Et c'était, mon Dieu, il y a 30 ans.
84, je crois.
Ouais.
Vous avez quand même donné, rendu ces lettres de noblesse aux platanologues, puisque.
Absolument. Voilà,
et je pense que vous êtes une des rares actrices qui a été incarnée du platanologue à l'écran. Bien, aujourd'hui on n'est pas pour parler d'Agnès, mais pour parler d'un film que vous avez choisi, donc Quand passent les cigognes, de Mikhaïl Kalatazov. Alors quelques mots sur le film. Déjà, pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que tout de suite, ça a été quand on vous a demandé quel film vous avez envie de présenter, vous nous avez dit « Quand passent les cigognes ». Alors c'était vraiment un cri du cœur.
Alors, je n'imaginais pas à quel point ce film serait d'actualité. Et à quel point je suis contente de vous voir si nombreux pour le voir, parce que non seulement c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film très très important. Parce que c'est un film qui a été tourné en 1958, du temps de Khrushchev. Au moment où la Russie s'est un peu desserrée, l'étau s'est un peu desserré. Et ça a donné des films, quelques films extraordinaires, et dont celui-là, qui par la suite a gagné la Palme d'Or à Cannes, parce qu'il a été repéré par Claude Lelouch. Claude Lelouch était à Moscou à ce moment-là, il faisait des reportages.
Mais pourquoi ça vous gêne?
Et il est allé sur le tournage de Kalatazov. Il a trouvé ce tournage,
il a vu là, et là vous gênez l'enregistrement.
Et il est rentré à Paris et il a parlé avec le directeur du festival de Cannes en lui disant qu'il faut absolument l'inviter. Et non seulement ils l'ont invité, mais il a gagné la Palme d'Or. Alors, les films, vous savez, le cinéma c'est une matière vivante. Ça bouge. C'est jamais tout le temps, on n'a pas tout le temps les mêmes réactions vis-à-vis d'un film. Et je me rappelle, François Truffaut vous disait, il faut aller revoir les films, il faut les voir et les revoir, parce que nous, on change, le monde change. Et donc les films, on les voit différemment. Et quelquefois, tout d'un coup, on découvre leur grandeur et on découvre même quelquefois leur actualité. C'est le cas de celui-ci. Je ne veux pas vous en dire plus, parce que je ne voudrais pas vous influencer pour votre... Pour votre visionnage, pour que vous, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le film. Nous l'avons présenté dans ce festival de cinéma russe dont je m'occupe à Paris, car depuis quelque temps, on montre beaucoup moins les films russes. C'est très regrettable. Avant, il y avait à Paris deux salles, l'Arlequin et le Cosmos, où on pouvait voir tous les grands films russes, les films de Mikhalkov, de Kontchalovsky, etc. Maintenant, étrangement, parce qu'il n'y a pas de vedettes qu'on connaît, parce qu'il y a une inflation de films du monde entier, on voit beaucoup moins les films russes, alors qu'il y a des films remarquables. Alors nous, avec cette association, mais aussi c'est une association, nous montrons des films que même les Russes quelquefois ne voient pas, parce que les cinéastes sont dans une telle situation en ce moment qu'il faut absolument qu'on montre leur film, parce que quand on me dit, mais pourquoi le cinéma russe maintenant, avec tout ce qui se passe, je dis, ben oui, justement, parce que les intellectuels et les artistes, ils ont la double peine. Déjà, la difficulté de faire leurs films en Russie, et en plus, de ne pas pouvoir les montrer en Europe. Donc cette fonction-là, nous l'avons non seulement maintenue, mais même renforcée. Maintenant, notre festival s'appelle « Pour une autre Russie », parce qu'il existe une autre Russie. Et ceux qui, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu hier soir sur LCI, on a vu l'autre Russie. Et donc, je ne veux pas vous en dire plus, parce que ce film va déjà vous raconter les choses de cette autre Russie.
Sur Radio Alliance Plus, vous venez d'entendre la bande-annonce du film « Quand passent les cigognes » de Mikhaïl Kalatazov et nous retrouvons Jean-Noël Grandot de Carte Blanche avec Macha Merrill pour son ressenti devant ce film qu'elle adore.
Je voudrais avoir votre ressenti immédiat puisque vous venez de le revoir une énième fois. Qu'est-ce que vous en ressentez à la sortie de cette projection?
Moi, ça me fait pleurer chaque fois parce que d'abord, je trouve que cette... Ce film est tellement maîtrisé, tellement incroyablement vrai, et pourtant une sophistication extrême. Parce que c'est un film qui date de 58, et je peux vous dire que à l'époque, il n'y avait pas les techniques d'aujourd'hui, les numas, les caméras, et les plans qu'a réalisé ce cinéaste. Et sur le directeur de la photo aussi, parce que c'est un film très construit. Ils ont une école de cinéma extraordinaire en Russie, le Brugui, qui est une école où, dont sont sortis, qui a été créée par Eisenstein et qui a vraiment formé les plus grands cinéastes. Et moi, ça me fait aussi penser au cinéma japonais, c'est-à-dire à ce cinéma qui est très... dont chaque image est un petit chef-d'œuvre, un tableau. L'image en mouvement a des règles très, très particulières, parce que c'est pas la photo. Hein, c'est... Et je suis admirative, comme l'a été Lelouch quand il a vu ça, et d'ailleurs c'est drôle, parce que je trouve que c'est un film qui ressemble en mieux au cinéma de Claude Lelouch, hein, avec ses grands panoramiques où on voit beaucoup de personnages. Et
il a beaucoup de Orson Welles aussi, et pas Sophus.
Alors revenons quand même au film lui-même. Il faut dire que ce film a été tourné au moment où la Russie s'ouvrait un tout petit peu. C'était après la mort de Staline, et Khrouchtchev avait dévoiler les crimes de Staline. Et la société russe se desserrait un petit peu. Ça a duré quand même quelques années, ça a procuré un cinéma formidable. Il y a des cinéastes comme Mamin, comme Donskoy, qui ont éclairé cette période-là, très courte, qui est une période de liberté d'expression. Alors, il n'empêche que le film finit quand même dans une belle parabole soviétique.
Oui.
Que, malgré son chagrin, elle se réjouit qu'ils ont gagné la grande guerre.
Oui, mais uniquement sur la fin, quand même. C'est vrai que le film s'en détache de la patriotique qu'il pouvait voir avant. Hein.
Enfin, bon, oui, à part ce dernier temps, c'est ça mieux. Mais ce qui est très remarquable, il y a un autre film de Gonchalovsky qui s'appelle Asia, et qui est aussi l'histoire d'une jeune femme qui est une paysanne et qui a qui est enceinte et qui ne sait pas qui est le père. Et ce film, à l'époque, était totalement interdit en Union soviétique. C'est d'ailleurs nous, moi et quelques camarades, après un festival à Moscou, nous avons ramené le film en France. C'était des grosses bobines comme ça. À l'époque, chacun de nous a pris une bobine dans ses valises. Et nous avons ramené ce film en France. C'est un film en noir et blanc. Moi, j'affectionne particulièrement le noir et blanc. Parce que je pense que le noir et blanc est une intention, c'est une esthétique. C'est Orson Welles qui avait dit, quand on lui a demandé de tourner en couleur, il a dit « En couleur, les gens ont l'air de jambon. » Parce que, vraiment, c'est un peu plus perfectionné à la couleur. Mais enfin, c'est vrai que les nuances extraordinaires, les sentiments extraordinaires qu'on peut transcrire à travers le noir et blanc, c'est très difficile en couleur. Et il faut que je vous raconte une histoire à propos de ça. Quand j'ai tourné Belle de jour avec Buñuel, c'était donc un film en noir et blanc. Et 8 jours avant le tournage, les producteurs, qui étaient les frères Hakim, qui étaient des roublards formidables, l'ont dit Don Luis. C'est comme ça qu'on l'appelait. On ne peut pas faire le film en noir et blanc parce que sinon, commercialement, on ne pourra pas. Et Buñuel, qui était un fin stratège, qui était un homme très intelligent et qui savait que pour l'exploitation, ça diminuait les possibilités si on gardait le film en noir et blanc. Il a dit d'accord, c'était vraiment 8 jours avant le tournage. Mais il n'y aura pas de couleur. Et si vous regardez bien Belle de jour, tout est en gris, beige, marron, etc. On a dû refaire toute la garde-robe de Catherine, parce qu'elle avait des robes rouges, vertes. On l'a tout refait en marron. Et je me rappelle une scène, on tournait à la neige, à Megève, et il y avait dans un endroit, il y avait une grande baie vitrée comme ça, et il y a les skieurs qui descendaient. Et tout d'un coup, il y avait un skieur avec un bonnet rouge. Ah, on a tout arrêté. C'est-à-dire que ça a été comme un jeu, un bras de fer avec les producteurs pour résister à ce chantage qu'on lui avait fait. Et donc le film n'a pas de couleur. Et du coup, ça donne un vrai style au film aussi, un ton. Mais le noir et blanc a une force particulière parce que ça nous fait, nous, interpréter. C'est-à-dire, ça nous rappelle des photos du passé, des photos de famille, des photos de jeunesse. Maintenant, tout le monde se photographie. La photo, c'est comme ça, démocratisé beaucoup. Mais quand même, je suis sûre que chacun de vous a le souvenir d'une photo en noir et blanc qui reste dans le cœur et dans la mémoire. Hein, les ancêtres, les grands-parents, les parents, et même les photos de soi-même. Moi, j'ai des photos de moi bébé en noir et blanc. Elles sont beaucoup plus belles que les photos de mon enfant. Alors, vous comprenez que c'était ce thème de la Grande Guerre patriotique a occupé les écrans en Russie très très longtemps. Ça a été et c'est un des thèmes d'ailleurs que continue à brandir Poutine comme si c'était vraiment le mérite gigantesque de la Russie de nous avoir effectivement d'avoir vaincu les Allemands. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que Staline a vraiment sacrifié son armée, c'est-à-dire qu'il y a eu 20 millions de morts inutiles, parce qu'on envoyait vraiment tous ces jeunes au front, exactement comme ça se passe maintenant en Ukraine avec Poutine. C'est-à-dire que vraiment, et même quand par hasard il refusait d'aller au front, il y avait le NKVD, qui est l'ancêtre du KGB et du FSB d'aujourd'hui, qui fusillait les déserteurs, c'est-à-dire ceux qui refusaient d'aller au front, parce qu'ils n'étaient pas armés, parce qu'ils savaient qu'ils allaient à la mort. Et donc, il y a eu cette cruauté incroyable, inutile. Enfin, ils auraient probablement gagné même sans cette cruauté. Donc, vraiment, c'est une guerre qui a marqué. Toutes les familles russes ont un ou deux ou plusieurs morts de cette grande guerre patriotique. Et le grand mérite, enfin le talent de Staline a été de retourner ça en fait de gloire et de grande fierté. Alors, pourquoi j'ai choisi ce film, de vous montrer ce film, je pense que Vous ne l'auriez pas vu sans moi, peut-être, vous l'auriez, si je ne vous l'avais pas montré. Parce que non seulement c'est du grand cinéma, et que je pense que le cinéma va au-delà de nos propres désirs. C'est-à-dire qu'il y a une intimité avec un visage en gros plan au cinéma qui est plus forte que l'intimité que vous avez avec les gens avec qui vous vivez. Parce que c'est, ça vous va directement dans le cœur. Et il y a, dans ce film en particulier, un soin. Alors c'est une grande école d'acteurs qui remonte à Stanislavski et à Meyerhold, qui est d'être absolument vrai. Nous, les écoles européennes, enfin moi j'ai, avec Jouvet, mon Villard, c'est le mentir vrai, c'est-à-dire mentir, mais à un point tel que ça devient, ça a l'air vrai. Pas là. Là, ils étaient dans une sorte de recherche de l'authenticité. Elle a un petit peu de... J'ai remarqué, je n'avais pas vu ça, elle a des fossiles quand même. Ce n'est pas très fameux parce que les maquilleurs russes n'étaient pas aussi formidables que les Italiens ou les Russes, les Américains. Mais enfin, mais à part ça, dans le jeu et dans tous les personnages, il y a une authenticité qui est tout à fait unique. Et puis, ça a l'air comme ça très simple. C'est une histoire assez simple. Le fiancé part au front et puis qui se fait embobiner par son cousin et puis voilà. Mais en réalité, le film est d'une très très grande sophistication et même le montage, la façon dont c'est raconté, qui était avant-garde parce que je n'ai pas, je pense que vous n'avez pas eu le sentiment que c'était un film vieillot. Hein, on voit certains films de ces années-là et qui sont un peu ridicules, qui nous montrent... Tandis que là, à cause de cette formidable caméra, de ce mouvement perpétuel, et je répète, c'est pour ça que ça a plu à Lelouch, parce que c'est vraiment c'est la caméra qui raconte l'histoire et qui est tout le temps en mouvement, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de se poser des questions. Moi, je suis une fervente de la musique au cinéma, vous comprendrez pourquoi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je pense que la musique et le cinéma sont les deux arts qui sont les plus proches, parce que ce sont des durées. C'est-à-dire que un livre, tu le prends, tu peux lire une page, deux pages, et puis tu le remets. Au cinéma, c'est en mouvement, ça bouge tout le temps. Donc, il y a une sorte de... C'est comme si on ne pouvait pas l'arrêter, on ne pouvait pas le capturer, l'instant du cinéma. Et donc c'est très proche de la musique dans ce sens, parce que c'est la musique aussi, c'est du temps, des durées. Il y a ici, en plus, une sorte de description des sentiments humains qui, à mes yeux, est extrêmement original, parce que ils ne sont jamais ni bons ni mauvais. Ils ont tous des aspirations à la vie, à la beauté, et en même temps ils sont un peu faibles, crapules. Donc je trouve que c'est un portrait de l'humanité extrêmement réussi. Alors la distance avec la Russie, à l'époque, elle était très grande, hein, parce qu'ils vivaient quand même d'une façon... on voit bien, vous avez vu les bouilloires, les machins, le réchaud, le papier pour envelopper les cadeaux. Ils vivaient dans une sorte de misère, une misère collective, que tout le monde vivait en même temps, même les quelques apparatchiks privilégiés, qui maintenant sont tous des milliardaires, beaucoup plus qu'à l'époque, ils vivaient quand même très mal. Et ce que je trouve très réussi dans la photo de ce film, c'est qu'il y a beaucoup de clair-obscur. C'est qu'on voit bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclairage dans ce monde-là. Ils vivaient avec des lampes, des trucs. Et il a exploité cette atmosphère qu'il y avait en Union soviétique dans ces années-là.
Il y a un côté presque documentaire parfois dans le film.
Absolument.
On est tout à fait dans une réalité. Ce que vous dites est tout à fait vrai dans le jeu des comédies. On est dans une vérité beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans le cinéma européen à l'époque.
Et c'est une école, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas qu'ils sont comme ça naturellement. C'est le fruit d'un très très grand travail. La seule fois où j'ai travaillé avec un metteur en scène russe au théâtre,
c'était
avec Kantorowski pour jouer Juge la Mouette. Et alors il nous a fait faire des exercices extraordinaires. Il a fait venir un de ses professeurs de la Vague dans la grande école de théâtre de Moscou. Et alors nous faisions des exercices, par exemple, c'était la Mouette. On se racontait la Mouette avec nos mots. Entre nous. C'est-à-dire, on faisait un exercice où on ne disait pas le texte. Mais... Et puis, à un moment donné, il nous a demandé à chacun d'écrire une lettre à un des personnages de la pièce et de la dire devant une caméra. C'est-à-dire, c'est toute sorte de démarche pour essayer de désinhiber le fait qu'on soit devant une caméra, justement, ou devant le public. De faire comme si on était absolument seul. Face au texte et face aux idées qui sont véhiculées. Et alors c'était extraordinaire parce qu'il y avait donc Juliette Binoche dans cette pièce, il y avait André Dusselier, il y avait Jean Bouise, il y avait Écoffé, il y avait... Et chacun de nous a écrit des choses extraordinaires. C'est-à-dire que il y a un potentiel en chaque acteur qui, quelquefois, n'est pas tout à fait exploité parce qu'on ne travaille pas assez. Et ça, c'est un peu le reproche que je fais moi en général du cinéma français. C'est que les Russes, quand ils souhaitent à faire, d'abord, ils ont tourné ce film pendant 6 mois. Ils étaient même embêtés parce que la saison changeait, etc. Et tous les grands films russes, ils ont le temps. Enfin, ils avaient maintenant un peu, encore maintenant, enfin, ils ont le temps. Donc, il y a tout ce travail qui est fait, un grand travail de préparation, un grand travail de concentration, et on tourne un peu par jour. Alors évidemment, les questions économiques nous empêchent, nous, en Occident, de faire ce genre de travail. Mais enfin, le résultat est tellement prodigieux que on ne peut que leur donner.
Vous-même, dans votre carrière, je crois qu'il n'y a pas de cinéaste russe.
J'ai tourné avec István Szabó, qui est hongrois. J'ai tourné avec Kontcholowski, j'ai fait un film avec Julian Blow qui s'appelle c'est d'après la pièce Duke for One, ça s'appelle en anglais, c'est Duke for Soliste. C'est le grand violoniste qui est malade et qui ne peut plus jouer. Oui, j'ai trouvé que c'était très différent des films, même américains.
Cette âme slam, j'allais vous dire, apporte quelque chose de différent dans ce qu'il vous dirige, lorsqu'il vous met en scène par rapport au cinéaste
français que vous avez connu. Je vous dis une chose générale sur le rapport à l'art qu'ont les Russes. Dans la société russe, un artiste, une grande chanteuse, une grande actrice, épouser un aristocrate. Dans aucune autre aristocratie, ça existe. Parce qu'ils sont considérés comme des dieux vivants. Les grandes danseuses, les grands danseurs, les grandes chanteuses d'opéra. Il y a une sorte de, plus que du respect, une sorte de vénération de l'art. Et je vais vous expliquer l'origine de ça. C'est ma version, mais je... Donc, mon ancêtre, je descends d'une très grande famille qui remonte au 9e siècle. Quand j'étais chez Bouvard, il me disait « J'ai 1000 ans, mais ça se voit pas. » Donc mon ancêtre, Vladimir, c'était Vladimir le Rouge, qui ne devait pas être un temps, et qui était donc un des premiers tsars de Russie. Les premiers tsars étaient des princes suédois qui étaient descendus de la Volga. Ils étaient beaucoup plus civilisés que toutes les peuplades qui peuplaient la plaine de Kiev. Les Russes, R-U-S, ils étaient païens, nomades et assez bruts de découvrage. Et donc les Suédois qui sont descendus ont occupé cette grande plaine de l'Ukraine aujourd'hui et ils ont voulu les sédentariser, créer des villes et des villages. Et alors, ce cramois a voulu trouver une religion pour fédérer toutes ces peuplades. Alors il a fait son marché. C'était donc l'an 1000, enfin 900 et quelques. Déjà, l'islam, c'était pas possible que son peuple ne boive pas. Les catholiques polonais, déjà, ils se haïssaient, allégeance au pape, pas question. Il y avait une religion qui était pratiquée par les Khazars, qui était une peuplade au-delà du Dniestr, qui en fait sont les ancêtres des Ashkénazes. C'était des gens qui avaient adopté la religion hébraïque sans être sémites. Ça a beaucoup plu, pensait que c'était pas mal. Là-dessus, il fait un grand voyage à Constantinople et on lui met dans les pattes une belle Théodora, je sais pas quoi, on l'emmène dans les églises. Alors c'était les ors, les encens, les chants, tout ça. Il a trouvé ça formidable, l'orthodoxie, qui était déjà un peu déclinante. Mais enfin, il a adopté l'orthodoxie. Et qu'est-ce qu'il a ramené à Kiev, dans son peuple ? C'est le théâtre, l'art, l'expression. Et je crois que c'est une clé pour comprendre le peuple russe, c'est que l'art est pour eux presque religieux. Ils ont une... Et la religion elle-même est un spectacle. Je ne sais pas si vous avez entrevu un peu de ces obsèques de Navalny hier. Le chemin est vraiment long, mais j'ai confiance.
La semaine prochaine, nous aurons la possibilité de retrouver Masha Merrill dans une interview où elle nous parlera bien sûr de cinéma, mais également d'écriture, également de la vie, également de sa carrière. À bientôt.
Restez avec nous sur Radio Alliance Plus.